Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Écrivaine.
Blogueuse.
Scénariste et animatrice.
Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
On s'inquiète beaucoup depuis le début de la crise de la COVID-19 sur la façon dont le confinement pourrait augmenter le taux de violence conjugale. D'ailleurs, on s'inquiétait, mais on avait des raisons de le faire. Beaucoup d'organismes qui ont dit que les appels explosaient parce qu'évidemment, c'est une situation de tension. Il y a de la tension parce qu'on est confiné. Il y a de la peur parce qu'on a peur d'attraper le virus. Mais ajouter à ça de la précarité financière, c'est vraiment un cocktail explosif. Et il y a Juripop aujourd'hui qui lance un service de soutien juridique gratuit pour les victimes de violences sexuelles. Je reçois Sophie Gagnon, qui est la directrice générale. Bonjour, Madame Gagnon.
Bonjour.
Écoutez, on s'est déjà parlé à plusieurs reprises sur les différentes initiatives de Juripop. Par ailleurs, on a parlé de la caravane là, qui se déplace un peu à partout dans le Québec. Là, j'imagine, je ne sais pas où s'en est rendu cette initiative-là. Avec la COVID, j'imagine que vous avez dû vous adapter.
On l'a mis sur pause,
oui,
malheureusement.
Oui, c'est ça. Puis ça, ben, ça n'a pas dû vous faire plaisir, évidemment. Là, ce nouveau service que vous lancez, c'est quoi?
Écoutez, on est tellement fière et heureuse d'annoncer ça aujourd'hui. Donc, ce qu'on lance, c'est un guichet unique de services juridiques où toute personne qui a vécu ou qui a été témoin de violences sexuelles ou de harcèlement au travail va pouvoir parler à un avocat ou à une avocate pour obtenir des conseils juridiques dans tous les domaines de droit. Fait que grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui est harcelé psychologiquement par son patron puis ne sait pas vers qui se tourner, ben peut nous appeler puis ensuite est mis en contact avec un avocat, une avocate de sa région. Si elle souhaite qu'on lui réponde en espagnol, en arabe, en italien, on peut le faire.
Oui, 10 langues que vous allez avoir.
Ben écoutez, on a 87 avocats partenaires à travers le Québec qui parlent un total de 12 langues.
Et là là.
En plus, on peut fournir des services d'interprétation. Puis on va vraiment aider la personne à identifier l'ensemble de ses recours et l'ensemble de ses droits. Puis si la personne décide d'entreprendre des démarches juridiques, mais on va pouvoir l'assister dans chacune de ces démarches-là. Par exemple, si elle a besoin de faire un appel à la CNSST puis qu'elle a besoin d'assistance juridique pour le faire, on va pouvoir le faire. Donc vraiment de fournir des services juridiques complets. Là.
Ben et c'est ça, parce que là, à qui ça va s'adresser? Est-ce que tout le monde va pouvoir se revendiquer de ces services-là?
Le seul critère, c'est d'avoir vécu de la violence sexuelle ou du harcèlement au travail au Québec. Après ça, tout le monde est admissible, vraiment, peu importe les revenus, l'âge, le statut d'immigration. L'accessibilité était vraiment un souci pour nous. On déploie, entre autres, des mesures d'accessibilité universelle. Donc, ça se veut vraiment le plus large possible. Puis, ça se veut aussi des services complémentaires à ce qui existe déjà, qui est fourni, entre autres, je pense, en matière de violence sexuelle par les CAVAC et les CALAX, qui, eux, sont des experts, mais bien souvent des matières criminelles. Ben nous, dans ce cas-là, on va pouvoir offrir une aide complémentaire dans tous les autres domaines de droit.
Bon, je pense que ce projet-là, vous l'aviez annoncé en décembre, si je ne m'abuse, et dès le départ.
Oui, le financement qu'on avait annoncé en décembre.
Oui. Vous aviez eu beaucoup d'appels, vous avez une liste d'attente, c'est ça?
Exact. On avait, dès l'annonce du financement, il y avait à peu près 40 personnes qui nous ont contactées pour bénéficier des services. Puis, bien évidemment, nous, il fallait qu'on les prépare. On n'était pas encore prêts à les fournir. Et puis, au début du mois de mai, on s'est mis à rappeler les personnes sur cette liste d'attente-là pour tester nos processus puis pour les aider le plus rapidement possible. Puis moi, j'ai vraiment été renversée de voir que chacune des personnes qui nous avaient appelées, ben avait encore besoin de nous. Fait que ça, ce que ça montre, c'est deux chose, c'est que premièrement, malgré la pandémie qui est arrivée depuis, les besoins demeurent. Puis deuxièmement, en presque 6 mois, ces personnes-là n'ont pas été capables de trouver d'alternatives pour les aider. Donc, ça illustre la nécessité du programme.
Puis le fait d'utiliser vos services, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de porter plainte à la police.
Ah mon Dieu, pas du tout. Puis en fait, nous, bien qu'on soit des avocats, des avocates, on ne va jamais forcer ou même encourager qui que ce soit à entreprendre des démarches juridiques. Je vous dirais que la valeur vraiment qui guide notre intervention, c'est celle de l'autonomie. Donc, on fournit des conseils juridiques pour que les personnes soient renseignées sur leurs droits, sur leurs options, Puis après ça, on les accompagne là-dedans. Puis ici, ce qu'on constate, c'est que les besoins ne sont pas juridiques, mais davantage d'ordre psychosocial. Mais on va également les référer à un réseau d'organismes d'aide là, qui pourraient les aider.
Je veux qu'on se parle, Madame Gagnon, des annonces qui ont été faites par la ministre Sonia Lebel récemment, qui a annoncé dans la foulée de la réouverture des palais de justice que l'appareil judiciaire allait se moderniser. T'sais, autrement dit, on a dû mettre en branle des procédés à cause de la COVID-19 parce que, bon, bien que l'appareil judiciaire ait été considérablement ralenti, là, on continuait à procéder aux causes les plus urgentes. Donc, on a été obligé de tenir, entre autres, des procès virtuels, d'alléger certains processus. Et Mme Lebel a bien pris soin de spécifier qu'elle avait tiré de grandes leçons de tout cela, qu'on allait appliquer désormais plusieurs de ces nouvelles méthodes. Exemple, justement, le procès virtuel. Comment vous avez accueilli ces annonces-là? Parce que j'imagine que pour une victime, le fait d'avoir accès à la possibilité de tenir un procès virtuel, ça doit alléger la charge émotionnelle du processus.
Ben, de manière générale, c'est certain que la modernisation de la justice était vraiment réclamée depuis longtemps. Donc, c'est sûr que généralement, on accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, pour ce qui est des violences sexuelles, peut-être juste une précision que j'apporterais, c'est que c'est quand même un domaine dans lequel, du moins dans certains districts, notamment Montréal, il existait déjà certaines mesures pour favoriser le bien-être des personnes victimes au sein de l'appareil judiciaire.
Par exemple?
Même chose pour les enfants, là. Donc, les personnes pouvaient décider de témoigner par visioconférence dans une salle différente pour pas côtoyer leur agresseur ou encore de le faire derrière les écrans. Je sais pas si vous vous souvenez, entre autres, du fameux procès de Jeanne Gomeschi qui avait eu lieu en Ontario.
Bien sûr.
Mais c'était derrière des écrans que les victimes avaient témoigné. Donc, il y avait déjà quelques mesures comme ça qui étaient mises en place, mais c'est certain que ça va être accueilli positivement. Je vous dirais que ce qui est requis, là, ce qui est demandé sur le terrain en matière de violence sexuelle, puis beaucoup aussi de violence conjugale, c'est davantage de formation des intervenants. Il y a encore tellement de préjugés là, qui continuent de nous habiter, incluant moi, là, incluant vous et moi. On a besoin, les juristes, les intervenants du système de justice, de mieux comprendre les réalités des personnes qui vivent de la violence sexuelle puis des violences conjugales. Puis on espère qu'il va y avoir des annonces en ce sens-là aussi.
Ben oui, puis même au niveau des avocats de la défense, la façon dont on interroge les victimes aussi. C'est drôle, j'écoutais hier le documentaire sur Netflix sur Jeffrey Epstein, et il y avait son avocat, l'avocat de la défense, qui disait, écoutez, moi, quand j'interroge une victime dans le box des accusés, je suis pas en train de me demander si je la fais sentir bien ou mal, je suis pas en train de me demander si je fais la meilleure chose pour la victime, je suis en train de défendre mon client. Et ça me fait sursauter, puis on l'a vu ici, ça a été discuté, évidemment, c'est une affaire qui n'est pas comparable, mais dans l'affaire Salvaille, la façon dont on a questionner la présumée victime, ce qui ressortait, et par rapport aussi à différentes causes de violence conjugale aussi, quand on la défense d'Hugo Fredette qui a assassiné Véronique Bard, qui a utilisé l'argument selon lequel elle l'avait poussé à bout, que c'était une folle, que c'était une démone sexuelle, c'est encore ça, là.
Ah oui, puis ça, c'est une conversation qui est vraiment très complexe parce que les accusés ont droit à une défense pleine et entière.
Bien sûr.
En vertu de ce droit-là, que les avocats de la défense posent des questions serrées comme ça, puis c'est important qu'ils puissent le faire parce que la personne est passible de prison, là. Ceci dit, ce qui est problématique, c'est quand des questions table sur des préjugés. Puis je vais vous donner l'exemple de l'affaire de Harvey Weinstein.
Ouais.
Tu sais, l'avocate de Harvey Weinstein a vraiment posé énormément de questions sur les contacts que les victimes, que les plaignantes avaient continué d'entretenir avec M. Weinstein. Dans certains cas, il y en avait une qui avait même maintenu des contacts de nature romantique ou sexuelle, puis avait vraiment attaqué leur crédibilité en raison de ça. Puis bon, il n'y a personne qui peut l'empêcher de poser ces questions-là, mais le verdict de culpabilité qui a été rendu illustre que ces arguments-là font de moins en moins leur chemin dans l'œil du public, dans ceux des tribunaux. Donc, je pense que, tu sais, au-delà de créer des... Ça va être difficile là, de moduler les paramètres du contre-interrogatoire, mais au niveau de l'acceptabilité sociale de ces arguments-là, faut qu'on finisse en tant que société par se rendre compte que c'est pas parce qu'on continue de contacter notre agresseur que l'agression ne s'est pas déroulée, bien
au contraire. Il y a des games de pouvoir là-dedans, puis plusieurs affaires psychologiques qui sont à l'œuvre. Ouais. Madame Gagnon, on a parlé beaucoup des effets du confinement, mais le déconfinement aussi, là, ça aura des effets.
Oui, puis on parle depuis tout à l'heure, vous et moi, de violences sexuelles, mais notre programme s'adresse aussi aux personnes qui vivent du harcèlement au travail. Puis en toute franchise, moi, ça m'inquiète le déconfinement parce que notre santé mentale est ultra fragile à tout le monde. Puis celle des entreprises va pas vraiment mieux non plus. Les budgets vont être restreints, les échéanciers vont être plus serrés. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients là qui sont présents pour que les milieux de travail soient très tendus puis qu'il y en ait du harcèlement. Donc, le cas échéant, nous, on va être là pour que les personnes puissent connaître leurs droits là, puis pouvoir, pour qu'ils puissent avoir droit à un milieu de travail qui soit sain et sécuritaire.
Sophie Gagnon, merci, directrice générale de Jurypop. Je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Jurypop ou même demander conseil en composant le 1-844-447-4767. Merci de nous avoir parlé.
C'est un plaisir. Merci. Bonne journée.
Au revoir.
De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.